Oui, merci beaucoup. J'aurais deux questions. Une première question très naïve. Pourquoi l'empreinte, je vois bien l'importance de l'empreinte carbone, pourquoi l'empreinte matérielle en tant que tonne de ceci, de cela, en quoi est-ce qu'elle compte au-delà de l'empreinte carbone elle-même, enfin, si ce n'est que l'extraction de matériaux, que la construction elle-même occasionne une empreinte carbone? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est qu'on a un peu évoqué la question des échelles ce matin. Et notamment, vous montriez ce qui rentrait, ce qui sortait de Bruxelles. Alors, je ne sais pas, c'est probablement Grand Bruxelles. Enfin bon, en tout cas, à votre avis, quel est le périmètre le plus pertinent pour aborder ces questions de métabolisme et de circularité?
Le périmètre pertinent, Sandra a osé.
Bon, je vais essayer de
répondre. Ah oui, bah, il y a bien un moment, un périmètre. Hein. Je sais que c'est un gros mot, mais...
Alors, premièrement, pour la première question qui est pourquoi on s'intéresse aux matériaux et à l'empreinte matérielle, pour moi, tout revient à ça. Parce qu'au final, si on a... Disons que s'il n'y avait aucune empreinte carbone de nos matériaux, de notre utilisation de matériaux, on n'aurait quand même pas suffisamment de matériaux pour continuer économiquement parlant. Donc les matériaux sont en fait, c'est tout là-dedans. Et c'est la transformation des matériaux qui crée de l'empreinte écologique. Tout est au fait basé sur les matériaux. Après, on peut s'intéresser à la transition énergétique, écologique, carbone, etc., etc. Mais au final, dans notre économie, on n'aura pas suffisamment de matériaux. Et même si on fait une économie 100% circulaire, en fait, on va créer un cercle qui va augmenter de plus en plus jusqu'au moment où on n'a plus de matériaux. Et là, c'est fini. Parce que le recyclage, on ne peut pas recycler à 100% un matériau. On a besoin d'énergie et on déperd des matériaux également là-dedans. Donc pour moi, la question matérielle est quand même super essentielle sur nos économies et le bien-être de nos économies. Donc, je ne sais pas si ça répond déjà à la...
Mais les matériaux sont très différents dans leur, à la fois dans leur rareté et dans leur impact. Non, mais je pense que ça va être très difficile.
Donc, les matériaux ont différents impacts écologiques et différentes... certains sont renouvelables, d'autres pas. Donc, évidemment qu'il y a d'autres questions pour certaines choses, mais on va toujours heurter la même chose. Donc, Paris a arrêté de prendre du bois et à utiliser du charbon parce qu'il n'y en avait plus assez du bois. Et parce que ça devenait trop lointain à l'utiliser. Donc il y a énormément de choses qui sont reliées à cette comme on dit dans le marché, où il y a l'offre et la demande, tout simplement. Donc quelque chose qui est critique, un matériau qui devient critique, bah, c'est une question de point de vue, c'est une question de combien on est prêt à mettre d'argent dessus. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment on va changer de paradigme, j'espère, à cause de ne plus avoir de matériaux. La deuxième question sur le périmètre. Alors c'est une super bonne question parce que chaque périmètre a d'autres enjeux et une étude métabolique de chacun des périmètres va donner d'autres solutions. Le problème, c'est comment on intègre tous ces périmètres simultanément. Et y a-t-il des solutions qui sont cohérentes et qui sont bénéfiques pour tous les niveaux? Et là, on n'a pas, pas la solution aujourd'hui. Mais il n'y a pas de bonne échelle. Si c'est pour le transport, par exemple, ben on va penser à l'aire métropolitaine, vu que, évidemment, toutes les maisons des nafteurs se trouvent en dehors des limites administratives. Si c'est une question de matériaux, de métaux, ben ça va être la planète. Si c'est une question d'eau, ça va être assez local, parce qu'au final, les nappes sur lesquelles on extrait en eau sont en Wallonie, pas trop loin de Bruxelles. Donc voilà, chaque matériau, chaque enjeu aura d'autres échelles intéressantes à traiter. Mais par contre, l'entrelacement de tout cela, c'est là le plus dur.
Merci pour cette présentation. Une question, tu as évoqué la compacité des villes. Il y a aussi des experts sur l'évolution de la métropolisation, l'urbanisation, qui remettent en question, enfin, qui se posent la question de la taille maximale des villes dans ces sujets de transition. Alors, est-ce que les études de métabolisme urbain mettent des limites ou des seuils de soutenabilité à la fois sur la compacité et la taille en elle-même des villes?
Très bonne question également. C'est C'est très difficile de répondre parce que, au fait, on se heurte toujours à des indicateurs. Donc, faire une ville la plus compacte, pour quelle raison? Est-ce que c'est pour réduire des matériaux? Est-ce que c'est pour réduire... Enfin, et en fonction de ces indicateurs, on aura d'autres compacités de ville et d'autres territoires en jeu. Donc, il y a le... Enfin, je me pose toujours la question, est-ce qu'on doit tout centraliser ou tout décentraliser pour en s'en sortir? Je n'ai pas de bonne réponse. Et les deux... Et dans les deux cas, au fait, on devrait réduire la consommation et on aura des territoires totalement différents de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément l'échelle, mais c'est ce qui fera notre ville. Parlons d'infrastructures, typiquement. Aujourd'hui, on est sur des infrastructures pour que toute la ville ouvre les vannes en même temps au maximum. Si on a des infrastructures qui sont beaucoup plus petites, notre consommation sera aussi réduite par conséquence. Donc, la même chose sur les routes. Si les routes sont trop étroites, il n'y aura pas de voiture ou il n'y aura pas de camion. Donc, c'est pas forcément la taille de la ville, mais c'est comment on construit la ville et quelles sont les infrastructures qui font circuler ces flux qui sont aussi super importantes. Et là-dedans, c'est essayer de penser à des choses qui sont facilement... qui peuvent changer d'échelle petit à petit et qu'on peut apprendre par les différentes échelles. Typiquement, avoir un grand incinérateur qu'on construit aujourd'hui à nouveau à Bruxelles, alors qu'on en a déjà un et qui ne roule pas au maximum, c'est pas une idée très brillante. Si on peut avoir des infrastructures plus petites et qu'on augmente petit à petit en fonction du besoin et en fonction des évolutions du besoin, parce que le mouvement zéro déchet n'existait pas il y a 10 ans, peut-être qu'on va réduire nos déchets dans 5 ans et au fait toutes nos infrastructures seront obsolètes. Donc voilà, c'est encore, je réponds pas vraiment à la question, mais je me cache derrière.
Est-ce que vous posez également la question du transport des matériaux et du bilan carbone
Je ne peux pas allumer dans le micro.
C'est bon. Ouais. Est-ce que vous posez la question du transport des matériaux dans vos études? Parce que c'est assez structurant aussi. Je pense à la région parisienne, il y avait tout un débat sur la création d'une nouvelle carrière de ciment à proximité de Paris. Et on voit que le bilan écologique, il est très complexe à mesurer, parce que certes, Paris a des besoins de ciment énorme avec la construction d'un nouveau métro, mais que finalement le bilan carbone est assez négatif de cette carrière et qu'on peut aller chercher le ciment plus loin. Enfin, voilà, comment est-ce que vous intégrez aussi cette question des transports?
On retombe sur la question de périmètre, encore une fois. Et donc, c'est qui est gagnant, qui est perdant dans cette histoire-là. Donc, si c'est la métropole du Grand Paris, ben, ça va être la même chose, ça va être différent que l'Île-de-France, ça va être différent que la ville de Paris. Donc c'est une palanquée d'acteurs et on va le métabolisme urbain pourrait devenir un outil de négociation. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vérité derrière ces flux. Ces flux dépendent du territoire qu'on prend en compte, des flux qu'on prend en compte, des acteurs que nous prenons en compte. Et donc quand je parlais des flux indirects, ben, voilà, il y a la majorité de la planète contre votre ville. Et quels sont les pouvoirs de force et de rapport que vous avez avec les approvisionneurs de vous. Donc oui, on peut le prendre en compte, mais ça dépend de la volonté de la personne en question et du territoire en question.
Soyez-vous d'accord pour qu'on en prenne deux dernières, puis qu'on dérape pas, on n'a encore pas d'os, et puis une petite synthèse. Deux dernières questions, ça va?
Ici. Vas-y. Oui. Je l'ai déjà posé.
Bonjour, est-ce que dans le programme régional d'économie circulaire de Bruxelles Capitale, il y a justement ce volet réduction, prévention et réduction des déchets et qu'est-ce que les politiques qui sont envisagées pour y répondre, ce qui est un des premiers volets de l'économie circulaire?
Donc il y a le volet déchets dans le programme régional d'économie circulaire. Ce que je n'ai pas montré, c'est qu'il y a plein d'autres programmes. Le programme ressources déchets, le programme climat, le programme Good Food sur l'alimentation. Et donc, ce qui est difficile, évidemment, c'est de savoir ce qui est propre à l'économie circulaire et ce qui n'est pas dans l'autre programme. Mmh. Et donc, dans notre cas, on a de la chance parce que c'est les mêmes ministres qui sont dans les deux. Il y a un tout petit peu de prévention, mais il n'y a pas de levier pour le moment incitatif sur les citoyens ou sur les entreprises. Il y a, à Bruxelles, on paye le sac de poubelle. Donc, il y a cette approche pay as you throw, enfin pollueur-jeteur, si vous voulez. Mais plus que ça, il y a des ateliers sur le zéro déchet et autres, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup plus, quoi. Aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a le sac orange qui est sur le sac des déchets organiques qui existe. Donc, qui représente la moitié de la poubelle tout venant, au fait, à Bruxelles. Donc, ça serait une diminution conséquente. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure pour gérer ces déchets à Bruxelles. Donc, pour le moment, ça part à Ypres, qui est autre part. C'est revalorisé en tant que compost autre part. Ouais.
Vous disiez également que cet outil pouvait être utilisé, si je ne m'abuse, sur les zones industrielles. Je trouvais ça... il y a une expérimentation qui a été faite par la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Qui permet autour de la métropole toulonnaise, où il y a deux grandes zones industrielles, de faire des rencontres d'acteurs industriels pour repérer, en fait. Alors, c'était vraiment fait pour voir comment les déchets pouvaient être réappropriés par d'autres entreprises pour devenir à nouveau des ressources. Mais je me dis que si on le faisait par le biais de ce type d'outils, ça pourrait peut-être démultiplier, parce que c'est long, les acteurs ne viennent pas forcément. Alors que s'ils avaient un outil qui pouvait remplir comme ça et qui soit accessible aux autres entreprises à proximité, ça pourrait peut-être permettre peut-être même de diminuer l'empreinte carbone en faisant arriver des stocks en commun, par exemple, au lieu de démultiplier les transports. Parce que là, ça a été fait aujourd'hui pour vraiment... Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui jettent tel déchet, puis il y en a qui disent « mais moi, je l'utilise beaucoup, ça ». Donc, tant qu'à faire, elles récupèrent. Mais on pourrait peut-être, du coup, démultiplier, ça peut être des leviers intéressants pour les zones industrielles, pour les transports, enfin, voilà. Donc, est-ce que cet outil-là, sur Internet, pourrait être utilisé de cette manière-là?
Tout à fait. Et ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Le CCI a son propre outil Internet de ce genre-là aussi. Ouais. Il y en a des dizaines et des centaines des outils comme ça. C'est de l'écologie industrielle et territoriale pure et dure. Il y a le réseau Synapse, je pense, en France, qui regroupe, au fait, toutes les initiatives de ce genre-là. Et c'est assez évident. Théoriquement, pratiquement, au fait, les entreprises soit n'ont pas le temps, si c'est une petite entreprise, le chef d'entreprise n'a pas le temps de gérer ce genre de choses, si elle est assez grande, il faut trouver la personne développement durable là-dedans et essayer de prendre le temps de le faire, et surtout il faut avoir un espèce de cadre favorable où je peux partager les informations sur mes déchets. Les entreprises ne sont pas très friandes de partager leurs déchets. Et la même chose sur leurs équipements, parce qu'ils disent, s'ils savent que je n'utilise pas à 100% mes équipements, ils vont penser que je vais aller en faillite ou quelque chose comme ça. Donc le secret professionnel dans les données, malheureusement, c'est une plaie.
Mais c'est une loi. Il faudrait qu'on réglemente tout ça.
Exactement. Exactement. Et ce qui serait encore plus intéressant, c'est si on arrive à lier cette plateforme que je vous ai montrée sur la ville et sur les entreprises. Et du coup, directement, nous pouvons savoir, tiens, telle entreprise a filé ses déchets à telle entreprise, mon pourcentage de circularité de ma ville a augmenté de 0.quelque chose%. Automatiquement, on n'a plus besoin de payer des consultants pour faire de nouvelles études tous les 5 ans. C'est automatisé. Donc voilà, ça c'est le rêve dans plusieurs années.
Merci beaucoup, Aristide. Bravo.